Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes, qui sont-ils? Il y a Emmanuel Faux que je prendrai dans un instant.
Bonjour
Emmanuel,
Bernard.
Bonjour. On va parler donc de la mort, non pas de Douche, comme je le disais, mais de Douk, qui a été l'exécuteur numéro un du régime Khmer Rouge au Cambodge. Il est mort à 77 ans. Mais d'abord, vous, Dimitri Pavlenko, vous et une grosse cagnotte. Là, vous avez apporté tout un tas de billets dans le studio. 100 milliards d'euros exactement,
si
c'est le plan de relance économique annoncé par Monsieur Castex. Alors, les mauvais esprits disent d'ores et déjà oui, c'est pas mal, 100 milliards d'euros, mais enfin finalement, ce n'est qu'un rafistolage XXL. C'est un peu raide quand même, non?
Oui, je trouve, parce que dans ce plan, il y a plus que du rafistolage. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit tour de passe-passe de communication du gouvernement sur cette enveloppe, cette belle enveloppe bien ronde et rondelette de 100 milliards d'euros, parce qu'en réalité, il y a du recyclage dans ces 100 milliards.
Oui.
Déjà, vous avez 20 milliards qui correspondent à des baisses d'impôts, donc c'est pas réellement de l'argent engagé par l'État, c'est plutôt de l'impôt qui ne rentrera pas. Et sur les 80 milliards restants, alors vous avez des recyclages de crédits qui ont déjà été engagés. Je pense par exemple le Ségur de la santé, 6 milliards pour rénover les hôpitaux, c'est inclus dans l'enveloppe des 80 milliards. Vous pensez à l'aide à l'embauche pour les jeunes aussi, plus de 6 milliards, ça a été annoncé au début de l'été,
oui,
etc. Donc quand on fait la compilation, réellement, c'est pas 100 nouveaux milliards d'euros.
C'est combien de nouveaux milliards? 50,
alors,
60?
Je vais vous dire ça à la louche, mais on va être autour de 70, si vous voulez, par rapport aux annonces qui ont été faites, plutôt 60, 65, par rapport aux annonces qui avaient été faites précédemment. En plus, alors, un autre aussi point, là, c'est vraiment plus une incertitude, c'est que dans ces 100 milliards, vous en avez 40 quand même qui vont dépendre très largement de l'Europe. C'est de l'argent du plan de relance européen qui a été négocié cet été. Cet argent, il va pas arriver avant déjà l'année prochaine. Donc là aussi. Et il y a aussi cette question, cette sous-question, si je puis dire, sur ces 40 milliards. C'est une avance que l'Europe va nous faire sous forme de subvention qu'il faudra en fait rembourser ultérieurement. Combien cela coûtera-t-il à la France, les oppositions? Je pense à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon annonce déjà que la France en fait en paiera 66 milliards. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que tout est renvoyé en fait à des négociations ultérieures. Ensuite, sur le fond, on est quand même là, il faut le dire, face à un vrai plan d'investissement. On va préparer des choses sur l'avenir. Je pense par exemple à la filière hydrogène. Pour vous dire, Bernard, l'État était prêt à mettre 100 millions sur l'hydrogène il y a 2 ans, du temps de Nicolas Hulot. On va passer à 7 milliards quand même.
Oui.
Dont 2 engagés. Donc réellement, il se passe des choses. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Donc réellement, je pense que l'État a quand même perçu la situation. Ça sert à rien de penser les plaies du passé. Pensons l'avenir. C'est une jolie formule qui a été un petit peu employée par Jean Castex hier.
Dimitri Pavlenko, vous voulez aussi nous parler alors d'une chose qui parle pas forcément au grand public,
oui,
les prêts garantis par l'État, prêts garantis aux entreprises bien sûr. Alors, il y a un vrai risque selon vous que les entreprises ne puissent en réalité jamais les rembourser.
Oui, tout à fait Bernard. Alors,
enfin, risque peut-être calculé d'ailleurs.
Ah oui, certaines d'entre elles peut-être font-elles déjà ce calcul. Qu'est-ce que c'est déjà les prêts garantis par l'État, je le rappelle, c'est de l'argent que les banques vont prêter aux entreprises en difficulté, mais que l'État, sur lequel l'État apporte sa garantie. Autrement dit, si l'entreprise ne peut pas rembourser, l'État s'engage à rembourser, alors pour certaines, jusqu'à 90%, c'est-à-dire que si la banque vous a prêté 100, de toute manière, la banque est certaine d'en récupérer au moins 90,
oui.
C'est 70% pour certaines entreprises, je pense par exemple à Air France. Mais en fait, cet argent qui était censé arriver en urgence pour dans le moment de la crise où il y avait plus de commandes, etc. Ça a permis d'éviter des faillites. Mais cet argent-là, et vous le savez, les entreprises doivent commencer à le rembourser à partir de l'année prochaine. Et en fait, il y a réellement un risque de défaut généralisé. Beaucoup d'entreprises n'auront pas retrouvé suffisamment d'activité, d'autant qu'elles ont bénéficié aussi de reports de charges au début de la crise. Et tout ça va arriver, le remboursement, au même moment. Dans les tribunaux de commerce, on est en train d'estimer que en fait, la crise, la vague de faillite, elle va arriver début, milieu d'année prochaine. Elle va être absolument massive. Et la question que déjà l'État se pose, et je vous engage à poser cette question à Agnès Pannier-Runacher, c'est l'État doit-il provisionner l'argent qu'il faudra rembourser aux banques à la lumière d'un possible défaut généralisé? C'est quand même un scénario qui commence à faire son chemin. Alors certains n'y croient pas. Personnellement, j'ai quand même une grosse inquiétude sur ce sujet.
Vous avez une grosse inquiétude sur ce sujet. On verra si Agnès Pannier-Runacher partage votre inquiétude. Je rappelle que la ministre de l'Industrie sera l'invitée de Radio Classique à 8h15 tout à l'heure. Merci beaucoup Dimitri Pavlenko, toujours extrêmement didactique. Tout comme Emmanuel Faux d'ailleurs. Emmanuel, vous souhaitez nous parler d'un personnage absolument infect, ou au moins absolument pas recommandable. On le surnommait le bourreau des Khmers Rouges. Tout cela se passe au Cambodge à partir de 1975. Il était plus connu sous le nom de Douk. En fait, ça s'écrit D-O-U-C-H, mais on prononce D-O-U-K. Ouais. Et il vient de mourir à 77 ans.
Et il a été probablement le chef tortionnaire le plus redoutable du régime de Pol Pot. Et ce qu'il a rendu tristement célèbre, c'est la prison centrale de Phnom Penh qu'il a dirigée pendant 4 ans. Ce centre S21 de sinistre mémoire ont été torturés, puis exécutés plus de 15 000 personnes entre 1975 et début 79.
Il y a un film extraordinaire d'ailleurs à propos de ce centre de détention.
Oui, et ces 4 années de terreur durant lesquelles donc les Khmers Rouges ont exercé leur dictature au Cambodge ont coûté la vie à 2 millions de Cambodgiens qui sont morts soit de torture, soit de faim, soit de maladie, soit d'épuisement. Douk, dont le vrai nom est Keng Gwek Eav, on va donc l'appeler Douk, a d'abord été professeur de mathématiques avant d'épouser l'utopie des Khmers Rouges qu'il a rejoint dès 1967. Et quand il a pris la tête de la prison S21, le centre de Chuol Sleng à Phnom Penh, eh bien Douk a appliqué sans état d'âme les méthodes de terreur les plus cruelles, jusqu'à la torture érigée en système qui précédait généralement l'exécution des détenus. Personnage ambigu, on pourrait même dire à double facette, parce qu'après la chute de Pol Pot en 79, Douk a continué d'appartenir au mouvement Khmer, mais il s'est mis au service d'organisations humanitaires. Oui, j'ai bien dit humanitaires, on a peine à le croire. Mais c'était aussi une couverture, parce que Douk, en fait, s'est caché. Il a disparu des écrans radars pendant 20 ans. Il s'est même converti au christianisme. Et il n'a été retrouvé qu'en 1999, démasqué par un photographe irlandais, Nick Dunlop, qui n'a jamais lâché l'affaire. Fin de la cavale, et Douk a alors été arrêté.
Il a en fait été le premier dirigeant Khmer Rouge condamné par un tribunal pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Oui, absolument. Et il a fallu attendre 2010, c'est-à-dire plus de 30 ans quand même, après la chute du régime Khmer, pour qu'il soit jugé et condamné. Mais Douk a fait appel de sa condamnation en première instance. Il a décidé de lâcher son avocat français de l'époque, François Roux. Résultat, sa peine est passée de 30 ans de prison à la perpétuité. Et entre les deux procès, il a changé complètement de stratégie. En 2010, il se montre très coopératif avec le tribunal, il reconnaît sa responsabilité, il assume son rôle de bourreau, consciencieux, méticuleux, disent les juges, qui retranscrivait à la main chaque confession de prisonnier. Il décrit les tortures, le transfert des détenus à quelques kilomètres de la prison pour leur exécution, et en même temps, il demande pardon aux survivants et aux familles des victimes. Ça, c'est en première instance. Et puis, 2 ans plus tard, lors du second procès, revirement tactique complet, Douk se présente comme un simple exécutant du régime, un simple secrétaire, dit-il. Il explique au juge qu'il était incapable de dire non, qu'il était prisonnier de la doctrine marxiste des Khmers et qu'il avait peur de désobéir à ses supérieurs et d'être abattu. Mais l'accusation l'a décrit comme un chef tortionnaire enthousiaste, méticuleux, indifférent à la souffrance d'autrui. Et il y a même un témoignage de l'ethnologue français François Bizot, oui, qui a été l'otage de Douk dans la jungle avant 75 et qui a dépeint un révolutionnaire sincère, prêt à donner sa vie pour l'aventure Khmer Rouge. Tout cela lui vaudra donc la prison à perpétuité. J'ajoute, Bernard, que seuls 2 autres responsables Khmers ont été également condamnés à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et pour génocide. Il s'agit de l'ancien chef de l'État du régime, Khieu Sampan, et de Nguyen Chea, l'idéologue du régime, décédé l'an dernier, en 2019. Mais Pol Pot, celui que les Khmers appelaient frère numéro 1 et qui a disparu il y a 22 ans, eh bien lui n'a jamais été jugé.
Et je vous encourage vivement à lire le formidable témoignage de François Bizot, livre magnifique qui s'appelle Le Portail, si je ne m'abuse, et qui raconte donc toute cette expérience qu'il a vécue, tragique et extrêmement pénible au Cambodge. Merci beaucoup Emmanuel Faux, merci aussi à Dimitri Pavlenko qui étaient les spécialistes de ce vendredi matin. Et merci à vous tous d'écouter Radio Classique, il est 7h48 exactement. Restez avec nous et avec Marc Bourreau, maître de cérémonie du festival de Deauville, le festival du film américain, qui commence ce soir en vert.